Lettres étrangères. Sylvain Bourmeau. Aujourd'hui, Herri de Lucca.
Merci d'être là, très, très nombreux, pour le troisième rendez-vous de cette série de rencontres avec des écrivains étrangers produite par France Culture et le Théâtre de l'Odéon. Donc après avoir reçu ici même, au mois d'octobre, le romancier britannique Ian McEwan, après avoir reçu quelques jours seulement après son prix Nobel l'écrivaine Svetlana Alexievitch, je suis très très heureux d'accueillir grand romancier européen Herri de Lucca. Je suis d'autant plus heureux de l'accueillir que au moment où nous avons lancé l'invitation à Herri de Lucca, il n'était pas tout à fait certain de pouvoir l'honorer, même si par principe il l'avait fait, puisque il était en attente d'une décision de justice, qui, fort heureusement, il a été acquitté. On va avoir l'occasion d'en reparler avec lui, puisqu'on va parler de beaucoup de choses, principalement de littérature. Je vous demande de bien vouloir accueillir Herri de Lucca. Alors, je disais, Herri de Lucca, que quand on vous a invité pour cette soirée, c'était à l'automne, on était mobilisés depuis un certain temps. On était tous suspendus, en fait, à une décision de justice, puisque un procureur de Turin vous poursuivait pour avoir tenu des propos s'agissant d'un projet de ligne de train à grande vitesse qui est prévu pour relier les environs, parce que c'est même pas Lyon, mais les environs de Lyon à Turin. Alors fort heureusement, vous avez été acquitté au mois d'octobre, mais vous auriez pu être condamné, évidemment, et si vous l'aviez été, vous aviez prévenu tout de suite que vous ne feriez pas appel, qu'il était hors de question, parce que c'était, s'agissait de principe pour vous de faire appel. Quel regard vous portez rétrospectivement sur cette affaire qui a été quelque chose d'important, d'empoisonnant, qui vous a empêché d'écrire pendant longtemps, qui vous a pris beaucoup de force et d'énergie?
Ma force à m'occuper de cette question, mais une question pour moi indispensable, la défense de mes mots, parce que c'était mes mots qui étaient incriminés pour instigation à commettre des crimes. Avec mes mots, j'ai pu instiguer à commettre des lectures, ou au mieux ma capacité à instiguer quelqu'un à lui-même écrire. Mais jusqu'à arriver à avoir cette efficacité, ça c'était un peu trop pour moi. Et donc je me suis défendu tout en redisant à outrance les mots qui avaient été incriminés.
Sabotage en particulier.
Le verbe saboter, je remercie la France pour avoir offert ce verbe au vocabulaire du monde. L'Italie, dans l'autre siècle, avait offert au vocabulaire du monde le mot fascisme. Donc, c'est bien qu'on a hérité ce mot contraire. C'est un mot que j'aime, parce que c'est un mot de fraternité, de solidarité ouvrière. Ceux qui faisaient ce geste de saboter les machines, les premières machines textiles, étaient des gens qui étaient restés dans l'usine et qui faisaient ce geste pour aider ceux qui avaient été renvoyés par l'introduction de cette mécanisation. Et donc c'était un geste de fraternité, de solidarité des ouvriers qui étaient restés sur place, qui étaient embauchés et qui risquaient pour ça donc d'être renvoyés eux aussi. Donc c'est un verbe de courage et de fraternité. Mais c'est un verbe qui n'a pas toujours la valeur d'une dommage matériel. On peut saboter de toute autre manière. Par exemple, j'ai fait pour beaucoup d'années le métier d'ouvrier. Et quand on fait une grève, ça veut dire on croise les bras, on fait un sabotage de la production, sans bouger, sans rien faire, en empêchant de faire la production de ce... dans cette usine. Donc le verbe saboter a beaucoup d'emplois pacifiques et nobles aussi. Noble parce qu'il a été aussi employé par des grands personnages de notre époque, comme Gandhi ou comme Mandela. Donc je voulais défendre ce verbe et mon droit de l'employer selon la possibilité du vocabulaire italien. Et j'ai gagné cette bataille sur le vocabulaire. Ce n'était pas une dispute entre académiciens. Il y avait un procureur qui me voulait m'envoyer en prison, et donc je répondais comme un inculpé, comme un accusé. Ce n'était pas une conversation entre personnes au même niveau. Mais en tant qu'écrivain, j'ai eu le sentiment de devoir défendre mes mots. Défendre mes mots et pas les retirer, même pas donner des nuances. Les défendre tels quels. Parce que pour moi, la liberté est exactement ça. Tenir ensemble ce que je dis et ce que je fais. Et alors cette liberté n'est pas à la portée d'une incrimination. N'est pas à la portée même d'un emprisonnement. Ça ne m'enlève pas cette liberté. Même une condamnation et un emprisonnement, qui n'a pas été le cas.
Vous avez gagné cette bataille juridique, lexicale, mais...
Je dirais qu'ils ont perdu leur bataille. Moi, je n'ai pas gagné. Moi, j'ai égalisé. J'étais comme avant. Je suis retourné comme avant. Ils ont perdu cette bataille de censure.
Mais vous n'étiez pas tout seul. Il y avait, avant vous, après vous, il y aura... d'autres personnes inquiétées pour les mêmes raisons, soit pour des propos, soit pour des actes, mais autour de cette mobilisation dans une vallée des Alpes italiennes. Vous continuez, j'imagine, de suivre ce qui se passe là-bas. Vous, votre cas a été médiatisé parce que vous êtes quelqu'un de connu, mais il y a aussi des centaines et même des milliers, je crois, de personnes qui sont inquiétées par la justice dans cette affaire.
Oui. C'est pas une idée à moi, celle de m'opposer à ces grands travaux sur la ligne Lyon-Turin. C'est une idée et une volonté d'une communauté entière de la vallée de Susa. D'abord, il ne s'agit pas de grande vitesse. Sur la ligne existante, la nouvelle épargnerait moins qu'une heure. Tout en arrivant hors de Lyon, 30 km hors de Lyon. Donc, si quelqu'un veut jamais aller à Lyon, il faut qu'il prenne le taxi ou l'autobus. Il n'y a pas de réseau ferroviaire. Donc, j'aime être précis avec les mots, comme pour le mot saboter. Je dis qu'il ne s'agit pas de grande vitesse, mais de modeste accélération. Je ne suis pas contre la grande vitesse. Je suis favorable à la grande vitesse, mais ce n'est pas le cas. Ceux qui parlent de grande vitesse mentent en sachant de mentir. Et en plus, cette œuvre largement inutile parce que la ligne existante voyage vide, donc il n'y a aucun besoin de la doubler. Mais ces montagnes, d'un autre côté, sont pleines d'amiante. Et pulvériser l'amiante, c'est micidial. Ils ne se battent pas pour la beauté de leur vallée. Leur vallée est étroite et déjà traversée par des grands réseaux, des autoroutes, des trains. Donc c'est une vallée déjà offerte au passage et aux infrastructures. Ils se battent pour leur légitime santé, pouvoir continuer à respirer l'air, à piétiner ce sol et à boire l'eau de ce sol. Donc j'ai adhéré à leur raison et l'occasion a été de pouvoir les donner un peu plus de voix. Je crois qu'un écrivain a une possibilité supplémentaire face à n'importe quel autre citoyen. Il peut donner de la voix à ceux qui ne l'ont pas. Il peut porter leur voix un peu plus haute et un peu plus loin. Je ne suis pas le porte-parole de la Val de Susa, mais l'amplificateur de leur raison, comme une espèce d'antenne qui a pu transmettre leur signal un peu plus loin. Ça a été mon rôle, et je suis content d'avoir réussi au moins à faire ça, à égaliser pour moi, et à donner un peu plus de largeur et d'ampleur à leur voix.
D'autant que c'est une question éminemment européenne, ou au moins franco-italienne, puisqu'il s'agit d'un projet qui traverse la frontière. Il s'agit aussi d'un projet qui est mis en œuvre par une compagnie qui est franco-italienne. Et donc la responsabilité de la France et des autorités françaises se trouvait indirectement au moins engagée. Mais il faut noter, Éric de Luca, que vous avez été, et vous l'avez remarqué vous-même très tôt, très soutenu en France. un pays dans lequel vous avez, d'une certaine façon, l'habitude d'être accueilli. Vous avez pour habitude de dire que vous avez été accueilli une première fois en France comme ouvrier, et puis une deuxième fois comme écrivain. On aurait presque envie d'ajouter une troisième fois comme inculpé.
Exactement.
Je voulais qu'on parle, pour commencer cet entretien, et on est parti de cette affaire récente, de votre rapport à la politique, Éric Louka. Parce que vous faites partie d'une génération dont beaucoup de membres s'est engagé jeune dans l'action politique, qui, par la suite, pour nombre d'entre eux, s'en sont éloignés. Et peut-être qu'on avait le sentiment que vous en étiez éloigné, venu progressivement à l'écriture. Vous n'avez publié votre premier livre qu'à 40 ans, après avoir eu plusieurs vies, en quelque sorte, une vie politique, une vie de travailleur manuel. Mais la politique, on a le sentiment, avec cette affaire, qu'elle ne vous a jamais quitté, qu'elle a toujours été là, au fond, même si on la voyait moins.
Si un temps pour politique, c'est être à côté des personnes du rez-de-chaussée de la société, oui. Si. Cette politique m'a toujours intéressé. Maintenant, je suis intéressé au déracinement des oliviers en Pouille, atteint par une espèce de virus, de peste, qui force à les déraciner. C'est complètement faux. Avec des remèdes traditionnels, on peut soigner. Ces arbres, on a déjà soigné des arbres complètement séchés par cette xylella et qui ont donné à nouveau du fruit et de l'huile. Mais ils vont déraciner, pas seulement les arbres atteints, mais tous les arbres dans 100 mètres de rayon. Donc c'est un massacre de la civilisation de ce lieu. C'est une extirpation, pas simplement des racines, mais aussi des ancêtres qui ont planté ces arbres. C'est comme enlever les morts sous terre, déraciner les morts sous terre. Et ça, je l'ai vu faire en Bosnie. Quand une ethnie venait d'être expulsée par l'autre, en sachant que les autres auront traversé les cimetières avec les rouspes, avec les machines les bulldozers, alors ils décevelirent leurs morts et les amenaient comme ça. C'est une espèce comme ça qui est en train de se produire en Pouille. On décevelit les os des ancêtres avec ce déracinement. Donc, je m'occupe de ce qui se passe au niveau du terrain. Moi, je suis un planteur d'arbres. Dans mon petit coin où je vis en campagne, je plante des arbres. Mon résultat meilleur est celle de voir grandir les ombres de ces arbres, de faire grandir et voir qu'ils grandissent aussi l'ombre sur la terre. Donc, je suis affectionné aux arbres. Et c'est pour ça que je défends les bonnes raisons des paysans du Salento en Italie. Donc, je m'occupe de ça. Ça, c'est pour moi la politique. Ça veut dire ce qui intéresse beaucoup de gens. Poli. Poli, en grec, veut dire beaucoup.
Mais vous feriez une différence entre cette conception de la politique et celle qui a été la vôtre dans les années 70, dans l'extrême gauche italienne, dont l'histoire continue, semble-t-il, de poser des problèmes à des gens comme ce procureur de Turin, parce que c'était sans doute pas tout à fait un hasard s'il s'en prenait à vous comme ça. Je pense qu'il donnait l'impression d'avoir quelques comptes à régler avec une période historique, non ?
Je n'entre pas dans la tête des procureurs. C'est pas ce qui se passe dans leur tête. Mais je me souviens, ma première lutte politique a été celle de, avec un petit groupe de copains, d'amener de la lumière, de l'électricité à une petite bourgade qui était des baraques dans la périphérie de Rome, qui n'avait rien du tout, mais même pas l'électricité. Alors nous avons branché sur l'électricité de la ligne, on avait amené la lumière. C'était la présentation à ces gens-là du XXe siècle. Voilà, monsieur, c'est le XXe siècle, l'électricité. Il est arrivé la police qui détachait, et après nous avons rebranché à nouveau. Et ça, c'était la lutte politique pour nous. Il y avait des maisons laissées vides par les constructeurs, il y avait des baraques. On amenait ceux qui habitaient dans les baraques dans ces maisons. On venait renvoyé. On rentrait. À la fin, on réussissait à avoir quelque chose. C'était une politique de, très pratique, avec une idéologie qui nous soutenait, mais c'était ça, la politique pour moi. Et restait ça.
Vous avez le souvenir de votre première indignation politique avant encore cet épisode de Rome, j'imagine, quand vous étiez probablement adolescent à Naples.
Ça dépend du fait que je suis né après la guerre, dans une ville qui avait été la plus bombardée d'Italie pendant la guerre. Et dans la ville qui avait reçu le grand nombre des attaques aériennes, il n'y avait que des femmes. Et c'était les femmes qui racontaient les histoires. Alors c'était la voix des femmes qui a formé mon système d'écoute et mon système nerveux. Mon système nerveux réagissait aux histoires passées à travers la modulation de fréquence de la voix des femmes de Naples, qui alternait le tragique avec le comique. Et c'était une douce écossaise. On passait du chaud au froid. Et cette voix m'a donné des frissons politiques. Ça veut dire qu'elle a introduit dans moi le besoin de répondre. C'est ça, la politique, la nécessité de répondre à un outrage qui fait sur soi même de la honte. Pas de la colère, parce que la colère passe, mais la honte non. La honte reste jusqu'à quand on la frotte. Il faut frotter, il faut répondre. Et alors, c'est pour ça que je crois d'avoir eu mes premiers frissons politiques à travers l'écoute des voix des femmes de Naples.
Naples, on en prend la direction avec une première lecture par Anne Consigny du début de votre roman Monte Didio.
A Ariuta en un morzo, la journée est une bouchée. C'est la voix de Mastérico devant sa boutique. Moi, j'étais déjà là depuis un quart d'heure pour bien commencer ma journée de travail. Lui, il arrive à 7 heures, relève le rideau métallique et dit sa phrase d'encouragement, la journée est une bouchée, elle est courte, il faut se remuer. À vos ordres, lui dis-je. Et ça s'est passé comme ça. Aujourd'hui, j'écris ces premières notes pour tenir compte des nouvelles journées. Je ne vais plus à l'école. Je viens d'avoir 13 ans et mon père m'a mis à travailler. C'est juste, c'est le moment. L'instruction obligatoire va jusqu'à la 9e. Lui m'a fait étudier jusqu'à la 7e parce que j'étais fragile. Et puis, comme ça, j'avais un meilleur niveau d'études. Par ici, les enfants vont au boulot même sans être allés à l'école. Mon père n'a pas voulu. Il est docker. Il n'a pas fait d'études. Aujourd'hui seulement, il apprend à lire et à écrire au cours du soir de la coopérative des dockers. Il parle le dialecte. Il est intimidé par l'italien et par la science de ceux qui ont fait des études. Il dit qu'on se défend mieux avec l'italien. Moi, je le connais parce que je le lis dans les livres de la bibliothèque, mais je ne le parle pas. J'écris en italien parce qu'il est muet et que je peux y mettre les choses de la journée, reposer du vacarme napolitain. Enfin, je travaille, même si c'est pour pas cher. Mais le samedi, j'apporte une paye à la maison. C'est le début de l'été. Le matin à 6 heures, il fait frais. Nous déjeunons tous les deux. Et puis j'enfile, moi aussi, ma veste de travail. Je sors avec lui. Je l'accompagne un bout de chemin et je retourne sur mes pas. La boutique de Mastérico se trouve dans la ruelle, au bas de notre immeuble. Pour mon anniversaire, papa m'a offert un morceau de bois recourbé. Ça s'appelle Boomran. Je le tiens dans la main sans rien demander. Je sens un chatouillis, une petite décharge électrique. Papa explique qu'on le lance loin et qu'il revient en arrière. Maman n'est pas contente. Ma adolada osa, mais où vais-je m'en servir? Elle a raison. Dans ce quartier de ruelle qui s'appelle Monte Didio, si tu veux cracher par terre, tu trouves pas de place entre tes pieds. Ici, il n'y a pas de place pour étendre le linge. D'accord, je ne peux pas le lancer, mais je peux m'exercer à faire le mouvement. Il est lourd, on dirait qu'il est en fer. Maman m'offre une paire de pantalons longs. Elle les a pris au marché de Résina, du bon tissu américain. Ils sont raides, foncés, Je les mets et je fais le geste de les arranger autour des genoux. Mo, si uomo porte e sorde a casa. Oui, j'apporte ma pelle le samedi, mais de là à être un homme, uomo, il y a de la marge. Entre-temps, ma voix s'en est allée et je parle rauque. Mon père a eu le boomerang par un de ses amis qui est marin. Ce n'est pas un joujou, un jeu. C'est l'outil d'un peuple ancien. Pendant qu'il explique, je me familiarise avec la surface, je passe la main dessus, je la caresse dans le bon sens. Chez Mastérico, j'apprends les lignes du bois. Elles ont un fil et un contre-fil. Je lisse le boomerang dans le sens de sa fuite et il tremble un peu dans ma main. Ce n'est pas un jouet, mais pas un outil de travail non plus. C'est entre les deux. C'est une arme. Je veux la prendre. Je veux m'entraîner à faire un lancer. Cette nuit, quand papa et maman seront en plein sommeil. Suono. J'ai vu qu'en italien, il existe deux mots. Sommeil et songe. Là où le napolitain n'en a qu'un seul. Suono. Pour nous, c'est la même chose. J'ai balayé la réserve de bois et j'ai eu droit à l'attaque des puces. Elles m'ont sauté sur les jambes. Au travail, je porte des pantalons courts, elles étaient devenues noires. Mastérico m'a lavé tout nu avec la pompe devant la boutique, on a bien rigolé. Ça va parce que c'est l'été. Nous avons mis de la poudre empoisonnée dans la réserve, il y avait même des rats. « Osurize, osurize !» Et il a crié le patron, il en a peur, moi non. Et puis j'ai eu ma paix. Il a compté mon argent et me l'a donné. Le soir, je commence à m'entraîner avec le boomerang. J'ai appris qu'il ne vient pas d'Amérique, mais d'Australie. Les Américains ont plein de choses nouvelles. Les Napolitains sont toujours là quand ils débarquent pour voir les nouveautés. Un cerceau en plastique vient d'arriver, ça s'appelle un hula hoop. J'ai vu Maria le faire tourner autour de sa taille sans qu'il tombe par terre. Elle m'a dit « Essaie ». J'ai répondu « Non, que pour moi, ce n'était pas un truc de mec. » Maria a eu 13 ans avant moi. Elle habite au dernier étage. C'est la première fois qu'elle me parle. Je serre le boomerang. Je sens la secousse. J'ai commencé à faire le mouvement du lancer. Je charge derrière mon épaule. Je le pousse en avant pour le laisser aller. Mais je ne l'envoie pas. Mon épaule est rapide, comme Maria avec ses hanches. Je ne peux pas faire voler le boomerang. Nous sommes trop à l'étroit au sommet de Monte Didio. Ma main retient le bois à son dernier centimètre et le ramène en arrière. Je fais comme ça, d'avant en arrière. Mon dos se dénoue, je transpire, je tiens ma prise serrée. Il suffit d'un tour de poignet pour qu'il me glisse des doigts. Au bout d'un moment, je vois que ma main droite est plus grosse que la gauche, je change de main. Une partie de mon corps rattrape l'autre, l'égale en rapidité, force, fatigue. Les derniers lancers bloqués prennent un élan de plus en plus fort. Mon poignet souffre de plus en plus de retenir. Alors j'arrête. Je ne voulais pas y rester à l'école. Trop vite grandi pour les bancs de la 9e. À l'heure du goûter, certains enfants sortaient leurs gâteaux des cartables. Et à nous, inscrits à la pauvreté, le surveillant donnait du pain avec de la confiture de coing. Quand il se mettait à faire chaud, les enfants pauvres allaient à l'école, les cheveux rasés comme des melons, à cause des poux. Les autres enfants restaient bien coiffés. Trop de différences de toutes sortes. Et puis eux, ils continuaient à étudier, nous non. Moi, je redoublais mes classes à cause des fièvres. Puis elles sont passées, je ne voulais plus aller à l'école. Je voulais aider, travailler. Les études que j'ai faites me suffisent, je sais l'italien. Une langue paisible qui reste sagement dans les livres. Depuis que je travaille et que je m'entraîne avec le boomerang, j'ai bien plus d'appétit. Papa est content de prendre son petit déjeuner avec moi. À 6h, la première lumière glisse sur la rue et se faufile jusque dans les étages les plus bas. Nous n'allumons pas la lampe. L'été, la lumière avance toute fraîche à ras de terre et s'élève ensuite pour allumer un four au-dessus de la ville. Je trempe mon pain dans ma tasse de lait, noircie avec de l'ersatz de café. Chaque matin, il s'est levé tout seul. Et maintenant, il aime bien que je sois là, moi aussi, pour dire un mot, sortir ensemble. Maman se lève tard, elle est souvent faible. À l'heure du repas, je monte au lavoir pour étendre le linge, et puis je le reprends le soir. Je n'étais encore jamais allée là-haut, sur la terrasse, au sommet de Monte Didio, où souffle un peu de vent le soir. Personne ne me voit et je m'entraîne là. Le boomerang frémit à l'air libre. Le manche se tord quand je le serre pour ne pas le laisser échapper. C'est du bois qui a poussé pour voler. Mastérico est un bon menuisier. Il dit que le bois est bon pour le feu, pour l'eau et pour le vin. Moi, je sais qu'il est fait aussi pour voler. Mais je ne le dis pas. Si lui ne le dit pas. J'ai pensé que je veux lancer des boomerangs depuis les lavoirs, la terrasse la plus haute de Monte Didio. Les bras fatigués, en sueur, je m'allonge un moment sur la terrasse où sont tendues les cordes à linge. Au-dessus de moi, il n'y a même pas un petit bout de ville. Je ferme mon bon œil. Je regarde en l'air avec l'autre, à demi ouvert, le miro. Le ciel devient aussitôt plus sombre, dense, plus proche, contre moi. Mon œil droit est faible, pourtant il voit mieux le ciel que le bon, qui me sert pour la rue pour regarder en face pour travailler à la boutique. Mon œil gauche est droit, rapide, il comprend au vol, il est napolitain. Le droit est lent, il ne met rien au point. À la place des nuages, il voit les flocons épars, du matelassier quand, dans la rue, sur un drap tendu, il peigne et retourne la laine pour en faire des flocons. Je reviens des lavoirs, je porte le linge dans un panier. Dans l'obscurité de l'escalier, quelqu'un guette mon passage. Je les sens même dans le noir, les yeux des autres, car lorsqu'ils regardent, ils touchent, ils font un léger courant d'air qui passe sous une porte. J'ai dans l'idée que c'est Maria. L'immeuble est vieux, les esprits passent le soir dans les escaliers. Sans leur corps, ils ont seulement la nostalgie des mains et ils se jettent sur les gens avec l'envie de les toucher. Ils y mettent tant d'élan que leur effleurement me parvient. Maintenant que c'est l'été, ils me frôlent la gueule, ils essuient ma sueur. Les esprits se trouvent bien dans les vieux immeubles. Mais si quelqu'un dit qu'il les a vus, c'est un mensonge. Les esprits, on peut seulement les toucher quand ils le veulent, eux. Mastérico héberge dans sa boutique un cordonnier qui s'appelle Don Raffaniello. Moi, je nettoie aussi sa place, autour de sa caisse et du tas de souliers qu'il répare. Il est venu à Naples de quelques sommets d'Europe après la guerre. Il est monté tout droit, en haut de Monte Didio, chez Mastérico, et il s'est mis à arranger les chaussures des pauvres. Il les remet à neuf. On l'appelle Raffaniello parce qu'il a les cheveux roux, les yeux verts, qu'il est petit avec une bosse qui pointe dans son dos. À Naples, en le voyant, on lui a collé le nom de Raffaniello, radis rouge. C'est ainsi qu'il est devenu Don Raffaniello. Il ne sait même pas lui-même depuis combien d'années il est au monde. Les enfants ne comprennent pas l'âge. Pour eux, 40 ou 80 ans, c'est un même désastre. Une fois dans l'escalier, j'ai entendu Maria demander à sa grand-mère si elle était vieille. Elle lui a répondu non. Maria a demandé si son grand-père était vieux. Et la grand-mère a répondu non. Alors Maria a demandé, « Mais alors des vieux, il n'y en a pas. » Et elle s'est pris une gifle. Moi, je les comprends, les années des gens. Mais celle de Raffaniello, non. Son visage fait 100 ans, ses mains font 40, ses cheveux 20, tout roux comme des broussailles. Ses mots, je ne sais pas. Il parle peu, d'une voix très fine. Il chante dans une langue étrangère. Quand je balaye son coin, il me fait un sourire. Ses rides et ses taches de rousseur remuent. On dirait la mer quand il pleut dessus. Il est vraiment sympa, Rafael Niello. Il répare les souliers des pauvres et ne se fait pas payer. Si quelqu'un veut une paire neuve, il prend ses mesures avec un bout de ficelle, il fait des nœuds à sa façon et se met à l'ouvrage. L'autre revient pour les essayer et il trouve des chaussures qui lui vont mieux que des gants. Rafael Niello aime les pieds des gens. Il ne fait pas de mal à une mouche et aucune mouche ne l'ennuie. Elle vole autour de lui sans se poser, même quand il y en a beaucoup. Mastérico, au contraire, remue son cou comme un cheval de fiacre pour le chasser de sa figure quand il a les mains occupées. Il s'ébroue aussi comme un cheval. J'agite mon chiffon autour de lui et elle le laisse tranquille une seconde. Je porte des sandales, même en hiver. Mon pied grandit et peut bien dépasser sans qu'on ait besoin d'en acheter une paire neuve. Elles me sont petites. Rafael Niello les a prises pendant que je balayais pieds nus pour ne pas les user. Il l'a fait sans que je le voie. Quand je les enfile à midi, elles sont à ma taille et si confortables que j'ai eu peur de m'être trompée de sandales. Je l'ai regardé, il m'a fait oui de la tête. Je lui dis merci d'en raffiner. Il répond, pas de don, mais vous êtes un bon chrétien, vous faites la charité aux pieds des pauvres, vous méritez le don. Non, non, le don c'est pour les autres, et puis je ne suis même pas chrétien. Dans mon pays, le nom que je portais était un peu comme celui de Rafael Niello. Je me suis tue. Je n'avais pas encore échangé 10 mots avec lui. Le cuir des sandales était parfumé, ressuscité entre ses mains. À la maison, maman m'a félicité de me faire aimer des gens. Avec Rafael Niello, ça ne compte pas. Il aime tout le monde. J'entends des cris et des voix napolitaines. Je parle napolitain, mais j'écris en italien. Pour parler la langue, nous devons l'étudier. C'est comme à l'étranger, comme en Amérique, mais sans s'en aller. Nous vivons en Italie, dit papa, mais nous ne sommes pas italiens. Beaucoup d'entre nous ne le parleront jamais. Et ils mourront en napolitain. C'est une langue difficile, dit-il. Tu l'apprendras et tu seras italien. Ta maman et moi? Non. Noi non pu. Non pu. Noi non putimo. Il veut dire nous ne pouvons pas. Mais le verbe ne lui vient pas. Je lui dis, nous ne pouvons pas. Bravo, dit-il, bravo. Toi, tu connais la langue nationale. Oui, je la connais. Je l'écris même en cachette et je me sens un peu très trop napolitain. Alors je récite mentalement son verbe pouvoir. I pozzo, tu pozze, iso po, noi putimo, voi putite, loro pono. Maman n'est pas d'accord avec papa. Elle dit nous sommes napolitains. Un point c'est tout. Mon Italie, dit-elle avec 2 m. Mon Italie est en Amérique, là où vit la moitié de ma famille. La patrie c'est celle qui te donne à manger, dit-elle en conclusion. Papa lui répond pour blaguer, « Alors ma patrie, à moi, c'est toi. » Il ne veut pas donner tort à maman. Chez nous, on n'élève pas la voix. On ne se dispute pas. S'il est contrarié, il met la main sur sa bouche et cache la moitié de son visage.
France Culture, Lettres étrangères. Aujourd'hui, Eri de Luca.
Merci. Merci Anne Consigny. Ainsi commence donc Monte Didio, l'un de vos romans, Eri de Luca. On aurait pu en choisir beaucoup d'autres, des extraits tirés de vos livres qui parlent de Naples. Et on a le sentiment que l'enfance passée à Naples est une une matrice incroyable pour votre œuvre qui verra le jour beaucoup plus tard, mais vous y êtes revenu à de multiples reprises, bien plus que vers d'autres expériences qui vous ont mené ailleurs, en Italie et dans d'autres pays. Comment vous expliquez cet attachement si fort, ce lien si fort qui existe pour vous entre l'enfance d'un côté, la ville, l'enfance, la ville, et l'écriture?
Mais d'abord, l'enfance, c'est une immensité. C'est la grande partie de la vie humaine, celle dans laquelle se produisent les événements majeurs. C'est celle dans laquelle la taille passe de minimum jusqu'à la taille définitive. C'est la période la plus importante. Et pour moi, c'est passé à Naples. Je n'ai pas un sentiment d'être de cette ville comme résidence, mais de provenir de cette ville. Il y a des Napolitains qui disent « Mais non, si tu n'habites pas à Naples, tu n'es pas Napolitain. » Non, d'accord, je suis d'accord. Je suis d'accord. J'ai été oblitéré comme un billet de train. Je ne suis pas dans le registre, hors du registre. Mais ils ne peuvent pas m'enlever la provenance. Je viens exactement de là. Ça, c'est inextirpable. Et alors, ça m'explique à moi quel genre de personne je suis. D'abord, sur la question des sentiments, non? Des sentiments qui se sont produits dans moi à travers les voix des femmes, des sentiments de honte, de colère, de compassion, se sont produits à Naples, face aux circonstances napolitaines. Et après, j'ai partagé ce sentiment d'appartenir pas à un point cardinal au sud, mais d'appartenir à toute une civilisation marine. Naples a été inventée par les Grecs. Ce n'est pas une ville du sud, mais directement une ville de l'est, parce qu'ils sont venus implanter leur village sous un volcan catastrophique et sur un sol sismique. Ils étaient très pratiques de ça. Ils avaient déjà vu disparaître une intère civilisation à Santorini, avec un volcan. Ils connaissaient le volcan. Et ce sentiment d'être planté sur un sol sulfureux et dangereux fait partie de la constitution physique d'un Napolitain. Si vous enfermez un Napolitain dans une chambre sombre, sans lumière, il pourra vous dire exactement où se trouve le Vésuve. Parce que c'est son cauchemar principal. C'est aussi une espèce de monument à la beauté du golfe. Ce foruncolo, ce four, c'est pas une montagne, c'est un four.
Et c'était un cauchemar d'enfant aussi, pour vous ?
Mon père plaçait son lit avec la tête au Vésuve, toujours, et les pieds dans la direction opposée. Donc j'étais déjà prêt pour aller dans cette direction. Il disait qu'il dormait mieux comme ça. Donc c'était le cauchemar de tous les Napolitains. Et c'est pour ça qu'ils se sont dotés d'un saint local qui s'appelle Janvier, qui est spécialisé en éruption. C'était un saint sismologue et volcanique, volcanologue aussi. Quand il y avait une éruption, on prenait la statue du saint et on l'a amenée contre l'éruption. L'éruption reconnaissait le saint et s'arrêtait. Donc c'était un saint spécialisé dans les éruptions. Et il y a eu un moment où Saint-Janvier a été détronisé, a été éliminé comme saint local. C'est passé au moment où sont arrivés les Français à Naples. C'était le 1799. Le roi était déjà parti. Il ne voulait pas les rencontrer. Donc il n'y avait que les Napolitains qui se sont opposés à l'entrée des Français à Naples. Pour 2 ou 3 jours, sont réussis à tenir hors de la ville, qui est une ville ouverte, n'a aucune défense, mais dans les rues, a réussi à tenir à distance l'armée la plus puissante d'Europe, donc du monde. Mais ils sont réussis à entrer les Français. Et pendant la présence des Français à Naples, il y avait la récurrence de la liquéfaction du sang de Saint-Janvier. Saint-Janvier est un saint obligé à faire cette liquéfaction 2 ou 3 fois par an. régulièrement, il se retrouve tous les fidèles dans une église où il y a la tech du saint, et il crie et il font aussi des offenses au saint jusqu'à quand il fait couler le sang. Alors, de l'effication du saint janvier, on s'attendait à une réponse politique. Le saint janvier, c'est avec nous ou avec les Français? Et effectivement, le sang de Saint-Janvier ne se liquéfie pas. Le peuple commençait à prendre c'était un peuple qui avait déjà démontré ses capacités d'irritation. Et alors, le général de la place française, de la place de Naples, convoquait le cardinal de Naples et lui disait que s'il n'y avait pas la liquéfaction, il aurait coupé la tête. Les Français étaient spécialisés dans cette mutilation. Et alors, Saint-Janvier, ému par le danger couru par le cardinal, fait liquéfier le sang. Alors, les Napolitains se calment. Donc, Saint-Janvier est d'accord avec l'occupation. Mais l'occupation a duré très peu. Et les Français se sont allés, sans être expulsés, se sont allés. Comme fin de la récréation, se sont allés. Et alors, ils sont revenus, les Bourbons, avec du calme. Hein. C'est sûr qu'ils sont partis, c'est sûr. Alors nous sommes revenus. Et en sachant que Saint-Janvier était collaboré avec les Français, ils l'ont éliminé sans plus. Il n'était plus le saint officiel de Naples. Il l'avait mis dans un souterrain. Ils ont mis à sa place San Francisco di Paola, que c'est un saint de la Calabria, où il s'était trouvé très bien dans la Calabria, les Bourbons. Mais se produit le fait qu'il y a tout à coup une autre éruption du Vésuve. Et San Francisco di Paola, ça avait fait tant de miracles, mais il n'était pas, il savait rien du tout des éruptions. Donc, le peuple napolitain prend la statue de San Francisco di Paola et l'amène vers l'éruption, mais la lave ne reconnaît pas le patron, et alors s'empare de la statue de San Francisco. Brûlé, disparu. Le peuple napolitain doit recourir, va prendre tout de suite la statue de Saint-Janvier, il l'amène vers l'avancée de l'éruption, et là, s'arrête parce qu'ils avaient une entente entre eux. Ça s'entendait, Saint-Janvier était spécialisé sur ça. Donc, ça, cette histoire explique à moi que pour les Napolitains, le sentiment du sacre, du sacré, ne vient pas du ciel, il vient du sous-sol. Et je partage ce sentiment de religieux face à l'immensité. Nous avons un golfe qui prétend être un des plus beaux golfes, plus beaux du monde. Mais nous savons, nous Napolitains, que cette beauté n'est pas le fruit d'une belle peinture. C'est le fruit d'une force énorme qui ont... avec éruption et tremblement de terre, ont foisonné cette beauté. Cette beauté, c'est le passage provisoire entre une catastrophe et l'autre. Donc, pour nous, la beauté, c'est une force de nature qui est toujours prête à nous balayer et faire sauter comme des sauterelles. D'abord, je crois que ça, c'est l'origine de la tarantella. La tarantella, c'est une espèce de danse qui veut calmer le sol. Ce n'est pas besoin que toi, tu trembles. C'est nous que nous tremblons sur le sol, à ta place. C'est une exorcisation du tremblement de terre, la tarantella.
150 ans plus tard, 150 ans après le siège par la plus puissante armée du monde, au moment où vous êtes enfant à Naples, c'est à nouveau la plus puissante armée du monde qui est là, mais cette fois, c'est l'armée américaine.
Et si Naples était choisie comme la capitale de l'OTAN dans la Méditerranée, ça comportait le vantage d'avoir toutes les marchandises américaines de contrebande. Parce que ce n'était pas une vente officielle des marchandises américaines. Mais un grand contrebande officiel, avec des marchés sur ça. Donc, avec cette possibilité d'accès à ce grand marché américain, avait aussi le fait qu'on était le plus grand bordel de la Méditerranée. Ça veut dire que les milliers de soldats venaient purger leur abstinence alcoolique et sexuelle en ville. Et dans ces occasions, qui étaient toujours là, parce qu'ils étaient en milliers, avec la 6e flotte des États-Unis, avec dans ces occasions-là, la ville était consignée aux Américains. Il n'y avait pas de police italienne, il y avait la police américaine. S'ils commettaient des crimes sur le sol napolitain, ils répondaient de ces crimes à la magistrature américaine, pas à l'italienne. Donc Naples était en Italie, mais pour c'était une expression géographique de l'Italie, mais c'était une ville américaine. Et ça, ce statut spécial a fait partie de ma jeunesse. En plus, j'étais une espèce de neveu d'américaine, parce que ma grand-mère était américaine, venait des États-Unis. Jamais, mon nom Harry est le nom d'un oncle qui s'appelait comme ça, Harry, H-Y, Harry.
H-A-2-R-Y.
Harry, yes. Pour moi, je suis devenu Harry pour simplifier, mais aussi pour prendre un peu de recul. Parce que plus je grandissais et plus que j'étais comme ces militaires américains, ces jeunes hommes américains. Mais je suis arrivé une fois d'être raflé dans une rafle de la police militaire américaine. Avec des autres, on était en train presque de m'embarquer sur un porte-avions. Et heureusement que j'avais une pièce d'identité que je ne trouvais pas. Mais à la fin, je l'ai trouvée avant d'être embarqué. Parce qu'il raflait tous les gens qui trouvaient dans la rue, et parce que c'était tout ivre, il venait de faire leurs besoins publics dans la ville. Donc, c'est oui, pour moi, c'était aussi un sentiment de honte qui s'est mêlé aux histoires. Mais les Napolitains ont apprécié les Américains. Ils ont aimé les Américains. D'abord, beaucoup d'eux étaient fils d'Américains. Beaucoup de Napolitains étaient en Amérique. Le premier chef de la place de Napoli s'appelait Poletti, Charles Poletti. Était un méridionnel, lui aussi, fils de méridionnel, un Américain. Donc, on s'entendait bien entre paysans, comme des concitoyens, on dit, paysans, avec les Américains. Et chaque famille, pendant la guerre, avait adopté un militaire américain. Il habitait chez les Napolitains, ce qui ne se passait pas avec les Allemands. Les Allemands habitaient dans leur quartier, dans les casernes.
Vous êtes né juste après la guerre, Eric De Luca, et... Donc évidemment, il y avait ce contexte, la présence de l'armée américaine, mais au-delà de ça, il y avait ce que vous n'avez pas connu, mais dont on sent que ça pèse de façon assez considérable sur votre œuvre, c'est les années juste antérieures à votre naissance, ces années de la guerre qui ont eu une incidence sur votre famille, sur le destin économique aussi de cette famille. Montedidio, c'est un quartier où vous avez habité, enfant.
Oui, ce diable du XXe siècle auquel je suis beaucoup affectionné a été un siècle encombrant. D'abord, pour moi, le premier siècle des grandes migrations. Un million d'Italiens se sont déplacés. Alléger le poids démographique de l'Italie. Et après, les grandes guerres mondiales, la Deuxième Guerre mondiale en particulier, que c'était une guerre nouvelle dans l'histoire de l'humanité, parce que c'est une guerre qui vise à détruire les vies des civils plus que les vies des soldats. Donc c'était une guerre criminelle par définition. Et ces histoires, les histoires de ce temps précédent étaient des histoires qui pesaient, qui étaient continuellement dites. Étaient chantées des histoires, étaient transmises, étaient traduites en œuvres de théâtre. C'était le deuil qu'il fallait surmonter avec les récits, les chansons, les œuvres de théâtre. Donc c'était infectif, avant la moitié du siècle où je n'étais pas, était si infective que j'ai eu l'impression d'être aussi contemporain de la moitié que je n'étais pas. Je n'étais pas là. Donc, d'être quelqu'un de tout entier le XXe siècle. Par contre, quand est terminé ce XXe siècle, je me suis trouvé dans une espèce de prolongation. Pour moi, mon appartenance est l'appartenance à ce siècle, au XXe siècle. Je viens de là et de ces histoires, de ces manifestations. Quand j'étais jeune, je fais partie d'une jeunesse révolutionnaire, mais parce que c'était ça l'ordre du jour du monde quand j'étais jeune. Il y avait les révolutions, il y avait les grands mouvements qui renversaient les empires coloniaux avec des luttes armées partout dans le monde. Et donc on faisait partie de ces. On héritait cette legs. Nous n'avons pas inventé le siècle, nous avons eu certaines legs.
Et vous avez toujours le sentiment que nous sommes dans le XXe siècle ?
Non, 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 le XXe siècle est terminé. Est terminé au point que le mot révolution, on ne peut pas, même pas plus l'employer. C'était un mot de l'autre siècle. Si quelqu'un parle de révolution, c'est toujours quelque chose d'antérieur. Non ? Mais pour moi, il y a tout simplement une connotation politique du XXe siècle, le siècle des révolutions. Donc pour moi, le XXe siècle est terminé.
On va rester dans ce XXe siècle, mais on va changer de paysage, de la baie de Naples. On va passer aux montagnes des Dolomites. C'est le début d'un autre roman, 2012, dans sa version italienne, 2014 pour la traduction française, Le tort du soldat.
Comme vous le savez sûrement, les droits d'auteur de l'écrivain Israël Joshua Singer, frère aîné du prix Nobel Isaac Bashevis Singer, tomberont dans le domaine public en 2014. Notre maison d'édition a l'intention de publier un choix d'œuvres en yiddish de cet auteur inconnu des lecteurs italiens. Nous voudrions donc vous charger de sélectionner dans sa vaste production de récits ceux qui vous semblent les plus intéressants. Nous vous confierions la traduction et la direction de ce recueil. Nous savons que vous êtes un lecteur passionné de littérature yiddish et que vous avez traduit le dernier chapitre du roman « Die Familie Mouchkat » d'Isaac Bashevis Singer. Si vous acceptez notre proposition, nous vous enverrons les photocopies en yiddish des récits d'Israël Joshua Singer. Peu de gens seraient susceptibles de recevoir cette lettre et je fais partie de ceux-là. J'ai appris la langue yiddish, parlée par 11 millions de juifs d'Europe de l'Est et rendue muette par leur destruction. Elle possède une structure grammaticale allemande, elle est écrite en caractère hébraïque, elle se lit de droite à gauche. Je me suis procuré une grammaire et deux dictionnaires en anglais. De toutes les langues que j'ai approchées, c'est celle que j'ai appris à lire le plus vite. Et j'ai pu feuilleter ainsi une littérature presque inconnue, très peu traduite. Le yiddish ressemble à mon napolitain. Deux langues de grande foule dans des espaces étroits. Elles sont donc rapides, composées de mots apocopés, capables de se faire de la place au milieu des cris. Elles ont la même quantité de mendiants et de superstitions. Elles sont expertes en misère, émigration et théâtre. Elles utilisent des proverbes identiques et railleurs. Mieux vaut apprendre le métier de barbier sur le visage des autres. Elles disent du progrès, un coup de pied dans le derrière est aussi un pas en avant. J'ai traduit le dernier chapitre du roman dit « Familie Mouchkat », oui, avec un « ou », parce qu'il n'existe pas dans l'édition italienne. Il a été publié en yiddish par épisode dans le journal Vorvet à New York. J'ai traduit le dernier chapitre qui n'existe que dans l'édition originale. À l'époque, dans les années 50, à la demande des éditeurs étrangers, l'auteur avait choisi d'alléger l'édition officielle anglaise qu'il supervisait. La famille Mouchkat a donc ainsi deux fins, une pour le lecteur en yiddish et une autre pour tous les autres. Il est intéressant qu'elles soient opposées. Je les résume. Nous sommes en septembre 1939 à Varsovie. La Seconde Guerre mondiale a commencé depuis quelques jours avec l'invasion de la Pologne par les Allemands. L'armée nazie n'est pas encore entrée dans la ville. Son aviation bombarde essentiellement les quartiers habités par les Juifs. Dans les rues désertes, le protagoniste rencontre une connaissance, un vieil homme désemparé qui cherche en vain un médecin pour sa femme. Ils échangent deux mots et en s'en allant, le vieil homme dit « Bientôt viendra le Messie ». L'autre, étonné, lui demande ce qu'il entend par là et il répond « La mort est le Messie. C'est la pure vérité ». Ainsi se termine le roman de l'édition anglaise. Le Messie, terminus de l'histoire du monde pour les Juifs et les chrétiens, est simplement la mort ici, sans rachat et sans rédemption. C'est la fin la plus impitoyable des livres que j'ai lus. Le blasphème sonne encore plus fort parce qu'il est mis dans la bouche d'un brave homme. Dans l'édition originale en yiddish, un autre long chapitre est consacré au déroulement du jour de l'an juif à Varsovie, sous les bombardements. On le fête justement en septembre. Le rite est respecté avec un plus grand scrupule et une plus intense ferveur par la communauté assiégée. À la fin de cette partie, le chapitre se termine sur un groupe de jeunes juifs qui marchent dans les bois vers l'est, en direction de la Russie, fuyant Varsovie. Dans les dernières lignes, l'auteur intervient directement et écrit en s'adressant à eux, « À côté de vous est la victoire finale. Pour vous viendra le Messie. » Pour les lecteurs en yiddish, il existe cette fin ouverte, une fuite pleine d'espoir et de prophétie. On attend encore de la connaître. Dans l'autre version, Singer laisse une fin désespérée pour les lecteurs non-juifs. Die Familie Mouchkat est une œuvre écrite juste après la guerre et la destruction des Juifs d'Europe auxquels il appartenait. Singer a voulu laisser dans la bouche des langues du monde le sel amer de la version courte. Ces informations servent de préface et expliquent pourquoi, lors d'un récent été d'escalade en montagne, j'avais avec moi un beau paquet de photocopies imprimées en caractère hébraïque du yiddish. J'avais accepté la proposition de l'éditeur et j'étais déjà bien avancée. J'avais choisi dans tous ces papiers un récit parfait, une histoire qui se déroulait entre 1919 et 1920. On y raconte les mésaventures ferroviaires d'un jeune juif polonais dans la Révolution russe. On peut les placer à côté de l'œuvre littéraire la plus réussie de ces années de la Révolution, « Cavalerie rouge » d'Isaac Babel. L'écrivain juif d'Odessa participa, sous un autre nom, aux batailles des Cosaques ralliés aux bolcheviks. À partir de cette expérience, il écrivit les meilleures pages que je connaisse sur le XXe siècle russe. Celui qui passe sa journée à fouiller les rochers à quatre pattes a du temps à revendre pour s'inventer des histoires. Mais en rentrant, il lui est salutaire de s'asseoir et de s'en faire raconter par un livre de bonne facture. Je me tiens compagnie avec l'écriture que je fais, mais quand je me mets à lire, j'ouvre grand les yeux et je retourne dans une chambre de Montedidio. Isaac Babel me replace régulièrement dans un vieux fauteuil vert au ressort défoncé. Je m'y pelotonne et je suis des yeux le fifre. On l'a fusillé à Moscou le 27 janvier 1940, sans lieu de sépulture. Il avait 45 ans. Ce qu'il a écrit me suffit pour le considérer comme le meilleur écrivain russe du XXe siècle. Ce qu'il n'a pas pu écrire ne me manque pas. En revanche, je suis peinée par le désespoir d'un homme doté d'un puits d'encre où trempait sa plume, qui lui fut scellée d'un bout de plomb dans le cerveau. Je ne vais pas sur les tombes des écrivains que j'aime, mais je tape du poing sur la table de mon siècle, qui a refusé à un passant une halte devant la stèle d'Isaac Babel. Le soir, après l'escalade et une douche, je vais dans une auberge pour reconstituer mes énergies, en me tenant compagnie avec les feuilles d'un autre alphabet. Le yiddish a été mon entêtement. J'ai voulu l'apprendre à mon retour des commémorations du cinquantenaire de l'insurrection du ghetto de Varsovie, avril 1943, avril 1993. À 43 ans, j'ai pris un congé et j'ai laissé le chantier où je travaillais pour aller à Varsovie. Les lectures de ma jeunesse étaient restées gravées en moi dans une sorte de carte sous-cutanée et je connaissais la planimétrie du ghetto dans lequel les Allemands ont entassé plus de 400 000 vies. Zone d'habitation, c'est ainsi qu'ils appelaient l'enclos des corps mis au rebut. Ils appelaient transfert l'envoi des trains blindés au camp d'extermination. Ils se couvraient en débitant de fausses expressions. C'est ce que font les pouvoirs, et il revient aux écrivains de rétablir le nom des choses. De mon enfance, il me reste le souvenir des livres, mais pas d'un seul jouet. Il y en a sûrement, ils se sont perdus. Petits soldats, petits trains, animaux, maisons. Les jeux sont des miniatures du monde qui aident un enfant à se sentir géant. Ils lui permettent de grandir en supportant son infériorité. J'ai peu joué. Je préférais lire. Dans les livres, il était impossible de se sentir grand. Les histoires étaient immenses. En comparaison, ma lecture était petite. Il y avait beaucoup de choses que je ne comprenais même pas. Les livres me confirmaient ma taille minuscule. Mais quelque chose grandissait en moi. Le médecin disait que c'était le foie, que l'on soignait avec l'huile du foie de morue. Moi, j'avais l'impression que c'était au contraire ma capacité pulmonaire qui augmentait. La lecture de Stevenson m'a rempli d'air d'océan. La poésie napolitaine me déliait la langue. London m'a appris la neige. Les histoires des massacres de la guerre faisaient palpiter ma veine frontale. Arrivée à mon premier âge de conscience indépendante, je décidai que Marek Edelman, un des commandants de l'insurrection, serait mon héros. Je savais qui il était avant de connaître le nom de Che Guevara. Après la guerre, Edelman est devenu cardiologue. Il a voulu sauver le plus de cœurs possible. Il était mon héros parfait. Guevara, homme tout aussi noble, a fait le voyage opposé, de médecin à combattant de révolution. Je n'ai pas réussi à aller de Varsovie à Treblinka, destination finale des convois chargés sur la place de ramassage du ghetto. En revanche, je suis entrée à Auschwitz et à Birkenau, le plus vaste centre d'extermination. Je suis entrée par la grande porte qui s'ouvrait pour les trains. J'ai marché entre les baraquements ouverts, restés humides de terre et de terreur. Je me suis assis sur un des bancs des bois superposés qui accueillaient les corps épuisés par le travail et la faim. J'ai fermé les yeux. Je me suis endormie une minute car je ne sais pas prier. C'était un des lieux du XXe siècle où l'irréparable était immense. Aucune justice ultérieure, aucune défaite des responsables ne pouvait égaler la damnation commise. Il existe un seuil du crime au-delà duquel la justice est moins que du papier toilette. Je ne me rappelle pas la présence d'autres visiteurs. S'il y en avait, je les ai évités. La plaine de la Haute-Silésie était immobile, l'air à peine agité de papillons noirs. C'était une terre sourde, muette. J'avançais, en passant de l'enceinte barbelée des tziganes à celle des femmes, grappillant dans ma tête les histoires individuelles que j'avais lues et qui trouvaient là leur exacte coïncidence. « Donne la petite à maman !» La phrase criée par une juive hongroise l'été 44 avait sauvé sa sœur qui descendit du convoi blindé, se dirigeait vers la sélection au bout du quai avec sa fille dans les bras. Enfermée depuis des mois dans la section des femmes d'où l'on voyait arriver les wagons, elle savait qu'en tête du train, les vieux et les enfants allaient directement dans la file des grandes chambres à gaz. Dans le silence entrecoupé d'ordres et d'aboiements de chiens, la voix de la femme parvint à la sœur, qui obéit machinalement. Elle remit la fillette à sa mère et passa ainsi la sélection, elle seule. Elles survécurent, sa sœur et elle. Je ne connais pas de cri plus impitoyable et sain. Je descendis les larges marches menant aux grandes salles des fausses douches que les Allemands qui se retiraient ont fait sauter en même temps que les fours crématoires pour les remonter. Je fus pris de vertige et je dus m'asseoir au milieu de l'escalier. Sur les tiges de fer qui dépassaient du béton éclaté, les descendants venus en visite avaient laissé des petits mots. Je suis restée jusqu'à l'heure de la fermeture. Avant de sortir, j'ai commis un vol sacrilège. Entre les voies désaffectées qui aboutissaient au camp, je me penchais et ramassais le boulon d'une traverse tordue et reforgée. Il se trouve maintenant sur ma table devant la fenêtre qui s'ouvre, sur l'ombre des arbres que j'ai plantés au fil des années. Je les plante car celui qui fait l'écrivain doit rendre au monde un peu du bois abattu pour imprimer ses livres. Ce boulon reprend la forme d'une lettre hébraïque, le yod, initial du nom imprononçable de la divinité, la première lettre du tétragramme, que certains lisent Yahvé, d'autres Yéhovah, mais en hébreu veut rester indicible. A trouvé pour moi du XXe siècle la forme d'un boulon, enfoncé dans une traverse de Birkenau, extrait et abandonné à l'usure de la rouille. Je la lui ai retirée. En hébreu, il n'existe pas de majuscule, pas même pour le nom sacré du tatragramme. Répété 6639 fois dans l'Ancien Testament, sa majuscule secrète est toute dans l'interdiction de le prononcer. Le tétragramme peut s'écrire, mais pas se dire.
France Culture, Lettres étrangères. Aujourd'hui, Herri de Luca.
Herri de Luca, on l'a entendu, ses repères, ce siècle, la révolution russe, la Shoah, Montedidio, l'ombre des arbres. Je voudrais qu'on parle d'écriture et donc qu'on parle de lecture, mais aussi qu'on parle d'un terme qui se situe peut-être entre les deux, la traduction. Parce que, comme ce personnage, vous avez appris le yiddish pour le traduire, et vous avez aussi traduit de l'hébreu, la Bible, comme une discipline quotidienne, comme un apprentissage de l'écriture.
Quelques livres de l'Ancien Testament j'ai traduit ici. C'était devenu une habitude physique pour moi de me réveiller avec ces pages, avec des lignes qui marchent au sens contraire de lecture. C'était une habitude qui est rentrée déjà à l'époque où je faisais le métier d'ouvrier. Et alors je arrachais du sommeil une demi-heure avant de sortir pour démarrer la journée comme ça. Parce que cette journée ouvrière m'a arraché toutes les énergies. Et alors je revenais du travail complètement vide et j'aurais pu faire rien pour moi. Sinon, reconstituer les fibres. Et par contre, cette demi-heure, un peu plus, que j'ai arrachée le matin, me donnait la satisfaction de faire quelque chose pour moi. Il y a un vers du prophète Amos qui dit que comme un berger va arracher de la bouche d'un lion des pattes ou un bout d'oreille, comme ça seront sauvés les fils d'Israël. Ça veut dire que on ne sauve presque rien d'une bête volée par le lion. Mais ce qui est beau dans ce vers est le fait que le berger ose faire aller contre le lion, contre cette force majeure, pour lui arracher une petite témoignage. Le témoignage qui sert à démontrer que la bête n'est pas, il ne l'a pas perdue, mais qu'il a été arraché par une force supérieure. Et donc c'est un témoignage de résistance contre l'arrachement. Et c'était comme ça pour moi cette demi-heure. C'était comme arracher de la bouche de la journée des petites choses qui n'avaient aucune possibilité d'être employables, mais qui pour moi était mon témoignage de résistance contre la journée ouvrière. Et je crois qu'avec cet expédient, j'ai eu la chance de me lever heureux tous mes jours de ma vie ouvrière. Donc j'ai un sentiment de gratitude physique face à cette langue. Je ne suis pas croyant. Je ne peux pas m'adresser à la divinité. Je n'exclus pas la divinité de la vie des autres, mais seulement de la mienne. Mais je suis attaché à cette habitude et à cette langue qui gouverne mes réveils.
Mais ce que je voulais savoir, au fond, c'est dans quelle mesure cet exercice que vous vous êtes volontairement imposé au réveil pendant ces années où vous étiez ouvrier vous a mené sur le chemin de la vie ultérieure, de celle d'écrivain que vous menez depuis. Est-ce que ça a été une manière d'apprendre et d'avoir envie de passer davantage de temps à écrire, ou est-ce que l'écriture était quelque chose que vous aviez en tête depuis bien plus longtemps que ça?
Non, je me suis tenu compagnie avec l'écriture depuis d'un âge de la plus petit âge. Mon premier récit me remonte à 11 ans. Je ne veux pas parler de ça. Mais c'était quand même l'histoire d'un animal, d'un poisson. Parce que j'aimais les poissons. Que je trouvais sur l'île, non, que je connaissais sur l'île, je commençais à apprendre leur vie, les vies des poissons.
L'île en face de Naples.
De l'île en face de Naples. Les animaux qui étaient dans la ville de Naples étaient les rats et les pigeons, donc ça ne me plaisait pas. Ne m'inspirez pas des récits. Je ne suis pas un traducteur, parce que le traducteur, c'est quelqu'un qui vit de ça. Et quand je traduis une page, je traduis un livre de l'Ancien Testament, je traduis une ligne par jour. C'est un vers par jour. Donc,
on ne pourriez pas en vivre, non?
On ne peut pas vivre, on peut mourir de ça très vitement. Mais la question pour moi de la traduction, c'est un exercice d'admiration. J'admire la chose que je vais traduire, les mots que je vais traduire. Et l'admiration, pour moi, c'est un sentiment intransitif. Donc, je n'arrive pas à m'identifier avec l'écrivain. Je reste de mon côté. Et je ne fais même pas un centimètre pour m'approcher à lui. Parce que si je vais dans cette direction, je commence à avoir un sentiment d'envie et de me mettre à la place d'eux. Non ? D'être l'usurpateur dans ma langue de l'écrivain. Je reste dans l'admiration qui est un sentiment fermé, bloqué. Et de ce côté de l'admiration, quand je traduis, je fais l'effort de trouver la meilleure solution en italien. Et donc, je plonge dans ma langue. Et je deviens plus capable d'extraire le mot juste. Au fur et à mesure, je deviens plus patron de ma langue à travers les exercices de traduction. Donc, si quelqu'un veut devenir écrivain, je lui dis d'abord, apprends une autre langue. Admire un autre écrivain, poète, philosophe, etc. Et commence à faire cet exercice de traduction, qui a été déjà traduit par des autres. N'importe, tu traduiras pire que les autres, ou parfois mieux. Mais ce n'est pas ça l'important. L'important est que tu fais cet effort de préciser, de faire advenir ce passage avec ton enthousiasme d'admirateur. Ça, c'est un exercice très efficace. J'ai eu la chance de ma carrière littéraire d'avoir une traductrice française unique qui a réussi à faire cet exercice d'admiration, mais sur le plan professionnel. Donc c'est un cas extraordinaire, Daniel Valin, et c'est aussi un cas de monogamie littéraire. Elle seulement traduit mes pages. Je ne permets à aucune autre version de traduire mes pages. Même si si j'écris une carte postale, est-ce que je peux employer cette carte postale? Oui, mais il faut que la traduise Daniel Balin. Donc, j'ai eu dans cette question de la traduction une rencontre formidable qui m'a permis de devenir une espèce d'écrivain français.
Mais alors, outre la traduction tous les matins de l'Ancien Testament, quelle relation vous aviez à l'écriture entre ces premiers textes, enfant, l'âge de 11 ans, et puis ce moment où vous publiez à 40 ans, vous n'avez jamais cessé d'écrire des choses que vous gardiez pour vous?
Des choses que je ne gardais pas pour moi, je les jetais. Parce qu'après un an, un peu de temps, je les regardais, je ne les aimais plus. Alors je les jetais. Et j'ai commencé à garder des choses quand j'ai commencé à faire le métier d'ouvrier. Et j'attribue ce passage au fait que d'abord, quand je n'étais pas encore ouvrier, la main était pour moi un instrument mécanique qui obéissait à mon cerveau. Et j'étais un peu fâché avec ma main qui était trop lente pour suivre le flux de mes imaginations et de mes lignes.
Surtout quand on écrit avec un stylo à encre.
Un stylo à encre, oui. Si. Sur un cahier avec les lignes, parce que sinon je... J'ai besoin des lignes, si. Pas des carreaux, parce que les carreaux semblent trop une grille de prison. Alors, là, quand j'ai commencé à faire ce métier d'ouvrier, j'ai commencé à avoir plus de respect pour la main. Parce que c'était exactement celle qui me donnait à manger. C'était le patron de ma vie. Et donc, avec le respect que j'ai commencé à sentir pour la main, j'ai aussi commencé à aller à sa vitesse, ou à sa lenteur, à son pas, au pas de la main. Et alors, mes mots ont commencé à prendre l'allure de l'écriture dans la tête. Ils se sont comme réglés, registrés sur tous les deux. Et alors, la main est devenue comme, pour moi, une espèce de directeur d'orchestre qui décide la partiture, comme le ton de l'écriture. Et de ce moment-là, j'ai commencé à garder ce que j'écrivais. Parce que c'était venu une alliance entre mon écriture et mon corps.
Mais c'est toujours lié à cette action de la main, ou est-ce que parfois vous vous trouvez dans la situation du personnage de ce roman dont on vient d'entendre un extrait, qui, alors qu'il fait de l'alpinisme, invente des histoires?
Ah si, mais quand je fais l'alpinisme, je suis très concentré sur ce que je fais. L'alpinisme, c'est une réduction au minimum. On est concentré sur les centimètres. Je ne pense qu'à ça, pas d'histoire. Mais des histoires aussi m'arrivaient quand je faisais le métier d'ouvrier, parce qu'en faisant une action très répétitive, et alors il y a la tête est libre. J'étais libre d'aller à la page, laisser le soir, le jour avant, et commencer à l'écrire. Je ne me suis jamais trouvé face à une page, comme on dit, blanche. La page doit être blanche, bien entendu, parce que si je la trouve déjà écrite, je prends de la peur. Parce que je pense qu'il y a un fantôme qui est venu me sostituer. Non, la page doit être blanche. Je sais déjà de quoi va se remplir cette page.
Vous n'avez jamais eu de situation de blocage par rapport
non,
à l'écriture?
Non, parce que j'écris seulement quand j'ai envie. Et donc, je ne suis pas l'employé de ma écriture que je me mets tous les matins là à écrire avec le stylo et à dire et alors, qu'est-ce que j'écris? Non. Je suis déjà... organisé dans la tête. J'écris seulement quand j'ai une pression, mais pour moi, il ne s'agit pas de travail. Non, on dit le travail de l'écriture. Non, c'est le soulagement de l'écriture. Le travail, je le faisais avant. Je ne perds pas de la sueur quand j'écris. Non, je l'ai déjà perdu. Je suis arrivé déjà sec. Si. La page est accueillante pour moi.
Et comment c'est donc ce non-travail, ce soulagement de l'écriture s'articule à la lecture. Dans ce texte, on a entendu quelques noms d'écrivains, ces pages d'Isaac Babel que vous tenez, que ce personnage tient pour les plus belles de la littérature russe du XXe siècle, mais aussi les noms de Stevenson, de Jack London. Lecture d'enfance ou vous continuez à lire ce genre de littérature?
Oui, oui, je continue à lire, je suis un lecteur passionné, mais je dois dénoncer une dissociation. Le lecteur qui est à moi ne connaît pas l'écrivain qui est à moi. Ils sont des personnes qui se ne connaissent pas. S'ignorent, ils s'ignorent.
Volontairement?
Non, c'est passé comme ça. C'est passé comme ça. Ils sont décidés de se présenter, de ne pas se rencontrer.
Vous n'avez jamais organisé les présentations?
Non, 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 non. Ils occupent des parties différentes, donc ils ne coïncident jamais. Je suis un espèce de lieu où ils se rencontrent. Se donne le change. Tu as terminé, alors je commence. L'espace est étroit, alors ils doivent se alterner dans moi. Mais ils ne se connaissent pas.
Et c'est donc mieux comme ça.
Je ne peux pas dire que j'ai une inspiration de comme écrivain de certaines. Parce que je ne lis jamais un écrivain comme un collègue. Je le lis toujours comme un lecteur, quelqu'un qui ne fait que ça. Le fait qu'il n'a que le bonheur de se faire raconter une histoire et pas l'esprit de confrontation avec la. Il y avait une histoire qui dit d'un écrivain suisse, Walser, Robert Walser, qui après avoir lu Dickens avait eu un cauchemar. Il ne pouvait pas plus écrire parce que Dickens c'était immense pour lui. Mais bien entendu, tu as lu Dickens comme un collègue de Dickens. C'est ça l'erreur. On lit Dickens comme un lecteur, comme le lecteur que chacun de nous est face à Dickens. Donc ça m'arrive jamais d'inviter aussi l'écrivain quand je lis. L'écrivain reste dehors.
Et donc vous ne tenez pas compte des avis d'autres écrivains, lecteurs, qui eux pourraient avoir tendance à se considérer comme des collègues?
Non, non, non. On n'est pas collègues dans ce genre d'activité. On est plutôt des co-étagères. On est sur la même étagère, en ordre alphabétique.
Donc jamais eu le moindre risque d'être écrasé par tout ce que vous avez lu. C'est ce dont vous parlez là, cette espèce d'organisation des choses.
Une dissociation.
Elle est arrivée très tôt.
Si, si, si. Si, 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 si. Depuis le début. Je lisais le livre et après, terminé le livre, je pensais, bon, je peux raconter une histoire à moi. C'est la façon avec laquelle je me suis tenu la meilleure compagnie dans mon adolescence. Parce que j'étais un type plutôt antisocial. Et à Naples, c'était difficile d'être antisocial. J'avais plutôt un tempérament norvégien. Le fjord, plutôt que la rouelle, était mon... Mais je me suis trouvé un norvégien qui s'est trouvé dans la... Et alors, mon fjord a été la lecture.
Vos livres ont à peu près tous les mêmes caractéristiques. Ce sont des livres courts. Comment vous expliquez ça?
Bon, parce que quand on écrit une histoire, on est hôte de la lecture d'une personne. Et alors, un hôte doit laisser la table tant qu'il est encore bien voulu. La chose meilleure qui peut arriver à un lecteur de mes livres, il dit « Ah, mais je voulais quelques pages en plus. » Très bien. Ça, je suis content comme ça. Parce que je n'ai pas été avare. Je me suis levé de sa table à temps. Avant qu'il commence à se fatiguer de la lecture. Donc, j'ai appris ça d'abord comme hôte, parce que j'étais hôte chez beaucoup de personnes qui m'ont hospité quand je faisais le métier d'ouvrier. Et j'avais développé le sentiment de l'anticipation. Je m'en allais quand il avait encore un peu de bien vouloir, hein, avant d'être un poids. J'ai ce sentiment d'anticipation que j'applique aussi aux histoires. La meilleure possibilité, c'est celle de lire des pages de moi et dire bon, encore un peu, mais maintenant je le relis. Ça, c'est le meilleur résultat. Le meilleur résultat d'un livre n'est pas de vendre beaucoup de copies, mais que la seule copie soit lue plusieurs fois par plusieurs personnes. C'est l'honneur du livre. Ce n'est pas le grand tirage, mais c'est combien de lecteurs a eu un seul livre. C'est pour ça que l'endroit juste du livre, c'est la bibliothèque publique.
Alors on va s'en aller tant qu'il est temps, sur la pointe des pieds. On ne va pas traîner en longueur, mais j'ai une dernière question, Iri De Luca. Vous avez commencé par lire, ou plutôt par dire, un poème. Quel rapport vous avez à l'écriture de la poésie? Est-ce que c'est différent des récits, des romans?
Ah si, si, si. De la poésie, je suis de ce que je fais pas de la poésie. Je fais des pages courtes. Comme des lignes qui n'arrivent pas jusqu'à la fin de la... qui s'interrompent, mais ne sont pas des vers. J'ai un sentiment d'approximation par des faux envers la poésie. Par contre, une page de prose, je sais que mieux que ça, que je ne peux pas l'écrire. Je suis satisfait avec ça, avec moi-même. Mais je sais que d'une page de poésie, je pourrais être écrite mieux, mais je n'arrive pas à la faire. Donc j'ai un sentiment d'abusivisme, comme quelqu'un qui se trouve publié comme poète. J'essaie d'être insuffisant pour ça. Mais parfois, il y a des histoires ou des circonstances qui prétendent ce format plus dense, plus concentré. Et c'est une espèce de télégramme pour moi, la poésie. Comme lecteur, non, je suis un lecteur de poésie et admirateur de la poésie du XXe siècle. Ça a été la majeure poésie pour moi. La poésie d'un siècle qui était fait pour les poètes, parce que c'était un siècle qui avait pas peu de temps pour écrire et peu de papier pour écrire. C'était un siècle de grands bouleversements et de grands sièges, d'émigration. On n'amène pas beaucoup de papier pour écrire sur les bateaux ou dans les prisons. Donc c'était un siècle à poète. Et j'ai apprécié ça comme lecteur.
Merci beaucoup, Iri De Luca. Merci. Merci. Et merci à Anne Consigny pour les lectures des extraits d'Iri De Luca. Je voulais juste remercier pour le théâtre de l'Odéon Marilène Boulan, Thomas Bro, Dominique Héret et Pierre Martigne. Et puis pour l'équipe de Radio France, Jean-Pierre Zinc, Gilles Manet et Véronique Villa. Merci à tous.